Faire une courte lecture, puisqu'elle consistera en un seul verset, verset qui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23. Romains, le chapitre 6 et le verset 23. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Et il est dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, cet après-midi, vous avez le choix. Vous pouvez soit mourir, soit vivre. Et moi j'ai envie de vivre. Pas seulement la vie terrestre, là, elle va se poursuivre encore pendant quelques années, je ne sais pas moi, ce qui me concerne, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être. Et puis, mais je parle là de la vie éternelle, de la vie éternelle. Alors la mort ou la vie? La vie ou la mort? Dans la parole de Dieu, commençons par parler de la mort. La mort concerne trois réalités. D'abord, il y a la mort spirituelle. Voilà. Par exemple, dans l'épître aux Éphésiens, nous ne le lirons pas, je cite le texte de mémoire, si vous permettez. L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens convaincus, des gens qui ont vécu une expérience spirituelle, qui sont devenus disciples de Jésus, qui ont mis leur foi dans leur Christ, dans le Christ. Et s'adressant à ces gens-là et parlant de leur passé, voyez, du moment où ils ne connaissaient pas encore Jésus comme leur sauveur, il leur dira: à cette époque-là, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Ça, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes vivants physiquement, mais spirituellement, nous sommes déjà morts. Parce que privés de toute relation, de toute communion, de tout contact avec Dieu, qui est la source de la vraie vie. Et le péché, eh bien, produit cette mort spirituelle. Quand Dieu a créé nos premiers parents, qui s'appelaient Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, à l'origine, la communion entre la créature, l'homme, l'être humain, et son créateur était parfait. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème. Et chaque soir, le Seigneur venait leur rendre visite. C'était formidable, ça. Dieu en personne venait leur rendre visite. Voilà. Et puis quand Adam et Ève ont désobéi, voyez, quand ils ont transgressé l'ordre divin, qu'ils ont péché, quoi, eh bien, cette relation, cette communion, ce contact qu'ils avaient avec Dieu a été interrompu. Et quand Dieu s'est approché, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur de lui. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce qui s'est passé pour Adam et Ève, c'est passé pour chacun d'entre nous. Tant que nous vivons loin de Dieu, nous sommes morts dans nos péchés. Vivant physiquement, vivant, comment il faut dire, biologiquement, mais mort spirituellement. Parce que Dieu est la source de la vraie vie, voyez. Jésus dira: la vie éternelle, ô Dieu, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Eh bien, je vous dis cet après-midi, chers amis, que si Jésus n'est pas encore votre sauveur, vous vivez dans cet état de mort. Parce que vous ne connaissez pas Dieu, qui est la source de la vraie vie, de la vie abondante. Voyez, ça, c'est la première étape de ce processus de mort. Le salaire du péché, c'est la mort, nous l'avons vu. Et puis, la mort recouvre une autre réalité, la mort physique. Voilà. Le Seigneur a dit, justement, à Adam, après qu'ils aient péché, lui et sa femme, « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Voilà, c'est le moment où il y a séparation du corps et de l'âme. Nous ne sommes pas que des êtres physiques, nous ne sommes pas simplement un tube digestif qu'il faut garnir, nourrir deux ou trois fois par jour. Nous sommes des êtres spirituels. Voyez ? Parce que créés à l'image de Dieu, Dieu lui-même étant esprit, nous aussi, nous sommes des êtres spirituels au-delà de notre corps physique. Et il est vrai qu'un jour, eh bien, notre être physique et notre être spirituel, qui pour le moment sont unis dans la même enveloppe, se sépareront. Notre âme retournera vers Dieu pour y être jugée. Et puis notre corps retournera où ça ? Dans la poussière. Le phénomène de dissolution va se produire. Et puis tout ce qui est matière, chair, va disparaître et littéralement retourner à la poussière. Ça, c'est la deuxième étape de la mort. Et puis, il y a ce que la Bible appelle la seconde mort. On l'a lu ce matin dans l'Apocalypse, au chapitre 20. Il est question de ce que nous avons coutume d'appeler le jugement dernier. Voilà. Tous ceux qui ne se sont pas mis en règle avec Dieu de leur vivant, tous ceux qui n'auront pas fait la paix avec le Seigneur, tous ceux qui n'auront pas accepté par une démarche personnelle, volontaire, Jésus comme notre Sauveur, passeront en jugement. C'est jamais agréable de passer en jugement. Il m'est arrivé d'assister deux fois à des procès d'assises, non pas parce que moi j'étais accusé, mais parce que je visitais les garçons qui avaient fait des bêtises. Une fois c'était pour un braquage et l'autre fois pour un viol. Et vous savez, j'étais là, c'est vraiment pas agréable du tout lorsque le juge dit à l'accusé, « Accusé, levez-vous !» Et que tout son pédigré, tout ce qu'il a fait, tous ses actes sont décrits par le menu détail devant tout le monde. C'est impressionnant devant une cour de justice humaine. Imaginez ce que ce sera devant le trône de Dieu. Vous avez pensé à ça? Si je comparais devant Dieu avec mon péché, eh bien mes amis, malheur à moi. L'Écriture dit qu'il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Dieu pour que chacun soit jugé selon le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Voyez ? Et dans ce passage auquel je me réfère, eh bien, Dieu prononcera sa sentence. Et ceux qui ne se seront pas réconciliés avec lui seront rejetés dans ce que la Bible appelle les temps de feu, c'est-à-dire un lieu de tourment extrême et de tourment sans fin, ce qu'on appelle l'enfer. Voilà, ça c'est la mort. La mort spirituelle. Déjà de mon vivant sur la terre, du fait de mon péché, je suis séparé de Dieu. Parce que Dieu est saint et moi je suis coupable. Dieu est parfait et moi je suis imparfait. Dieu est absolument pur et moi je suis impur, je suis pécheur, je suis mauvais. Donc il y a une séparation. La mort physique, mon corps retournera dans la poussière. Et si je reste dans ma situation de pécheur incrédule, eh bien, la mort éternelle, le jugement et la condamnation. Et la Bible nous dit, nous l'avons lu, que ça, c'est le salaire du péché. Quand on parle d'un salaire, on parle de quelque chose que l'on mérite. Lorsque un ouvrier, un employé, un cadre, qui vous voulez, n'est-ce pas, accomplit son travail et que à la fin du mois le patron lui remet, n'est-ce pas, son chèque, c'est pas un cadeau, c'est ce qu'il a gagné, c'est ce qu'il a mérité, c'est ce qui lui est dû. C'est un salaire. Eh bien, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est-à-dire ce que nous méritons, la conséquence logique, la conséquence juste du péché, eh bien, c'est la mort. Dans les trois dimensions que nous venons de définir il y a un instant. Et oui, parce que le péché, c'est une réalité qui nous concerne tous. Le péché, c'est d'abord un état. Quand nous venons au monde, nous avons déjà en nous cette nature mauvaise. Vous avez remarqué ça? C'est toujours plus facile de faire le mal que le bien. Pourquoi? Parce que nous avons en nous une nature qui nous pousse vers le mal, vers la jalousie, vers l'orgueil, vers la violence, vers la colère, vers la haine, vers l'impureté, vers. C'est notre nature humaine. Et puis cette nature humaine, eh bien, elle produit des effets de péché. Nous sommes en état de révolte à l'égard de Dieu. L'Écriture dit que nous sommes des fils de la rébellion. Mais c'est pas difficile de le constater. La plupart de nos contemporains, en tout cas dans notre pays de France, quand on parle de Dieu, ils ont une réaction instinctive de rejet. Vous avez remarqué ça? Ne me parlez pas de ça. On a un état de révolte contre Dieu. Eh bien, la Bible dit que tout ça, le péché, eh bien, il entraîne un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qui est dû. C'est ce que l'on mérite. C'est ce qui est logique, la mort. Parce que je suis un pécheur, je mérite du fait de mon péché la mort. Mais en face de ça, la Bible nous dit aussi que, gloire à Dieu, heureusement qu'il y a la suite, sinon si on s'arrêtait là, ce serait désespérant. La suite nous dit que si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Eh bien, c'est tout d'abord la communion retrouvée avec Dieu. Voyez, on est réconcilié avec Dieu. Voilà. L'apôtre Paul dira, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme se repent de ses péchés, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'un jeune homme, une jeune fille considère que c'est vrai, il est pécheur, il a offensé Dieu des quantités de fois et qu'il s'en humilie, qu'il plaide coupable, qu'il avoue, qu'il confesse sa misère au Seigneur, qu'il reconnaît les faits, qu'il lui dit « Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi ». Alors Dieu l'a dit « Ah, enfin, celui-là, il a la bonne réaction. Je vais me réconcilier avec lui. » Et désormais, la relation, la communion est rétablie. Et la présence de Dieu vient dans notre vie. C'est formidable la présence de Dieu, oui ou non? Est-ce que c'est bon la présence de Dieu? Nous, chrétiens, nous l'avons expérimenté. Voyez, indépendamment de toute influence extérieure. Il y a des gens qui disent, ouais, bien sûr, vous vous excitez un peu, là, un peu de musique, un peu de chant, vous frappez dans les mains, il y en a un qui prie, qui crie plus fort les uns que les autres. Alors, vous êtes dans une ambiance et vous rendez euphorique. Mais il n'y a pas que ça, mes amis. Il y a des moments où on va se retrouver tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Et parfois dans des situations extrêmement difficiles. Plusieurs d'entre vous avez vécu cela, je l'ai vécu aussi. Et tout à coup, la présence de Dieu, quelque chose d'indéfinissable, mais de tellement puissant, de tellement bon, qui vient pénétrer notre cœur et qui nous dit, même au sein de la pire des difficultés, « Te fais pas de soucis, reste tranquille, je suis là. » Non pas qu'on entende des voix, mais nous sentons sa présence et nous sommes réconfortés. Vous voyez, ça c'est déjà la vie éternelle. La vie éternelle, elle ne commencera pas dans le ciel. Elle a déjà commencé pour les chrétiens. L'Écriture dit quelque part, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Jean qui marque cela. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Être en communion avec Dieu. Être en relation avec Dieu. C'est ce que le Seigneur a promis. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas du bluff. Ce n'est pas qu'on se fait des histoires, qu'on se raconte des histoires. C'est une réalité que nous vivons et que nous expérimentons, la présence de Dieu. Rien n'égale la présence de Dieu. Je ne veux pas échanger la présence de Dieu contre tout l'or du monde. Vous pourriez me promettre, me donner toutes les richesses, tous les trésors, les plus grands, n'est-ce pas, tous les plaisirs, les plus extrêmes, ça ne vaut pas la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui a rédigé un psaume, c'est le psaume 73, et il parle dans ce psaume des combats, des luttes, des épreuves qu'il a traversées, des moments de découragement, des moments de confusion. Et puis, il dit ceci, je le lis pour vous, « Je suis toujours avec toi. » Ça, c'est fort. « Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. » Je dirais en langage un peu trivial. Je peux en voir de toutes les couleurs. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur afin de raconter toutes tes œuvres. Vous voyez, cet homme, il est sûr de son affaire. Je suis toujours avec toi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ou s'il y a des soucis, ben, il passe au second plan parce que je suis toujours avec toi. Et c'est pour ça que ma vie a changé. Ça, c'est la vie éternelle déjà. Et puis, la vie éternelle, nous la connaîtrons par la résurrection. Ouais, ouais. Tout à l'heure, j'ai dit que le corps retourne à la poussière. Oui, c'est vrai. Mais l'Évangile nous apporte cette excellente nouvelle. C'est qu'un jour, Jésus reviendra. Alléluia. Et quand il reviendra, ceux qui de leur vivant auront été ses disciples, ils seront ramenés à la vie. Voilà, il se passera pour eux ce qui s'est passé pour Lazare. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, il est question de cet homme, Lazare, qui était un ami de Jésus, qui est tombé malade, et à tel point même qu'il est mort, on l'a déposé dans un tombeau, et puis c'était fini. Et quand Jésus est arrivé, il semblait qu'il arrivait trop tard. Mais Jésus, il arrive toujours à la bonne heure. Toujours à la bonne heure. Et alors Jésus est allé au cimetière, non pas pour mettre un pot de chrysanthème, hein, mais beaucoup mieux que ça. Enlever la pierre. Seigneur, mais c'est pas possible, il pense pas. Il y a 4 jours qu'il est là-dedans, il sent déjà, son corps se décompose. N'ai-je pas dit que si tu crois, dira le Seigneur à la sœur du défunt, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, on a enlevé la pierre tombale. Et puis, Jésus a crié, « Lazare, sors !» Mes amis, la parole de Jésus, elle est puissante. Vous savez ça? La parole de Jésus, elle est puissante. Et si tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, elle est capable de te faire renaître à la vie. Alléluia. Et le mort, qui n'était plus mort, il est apparu vivant à la porte du tombeau, vous voyez? Eh bien, cet événement prodigieux se reproduira des milliers, des millions, des centaines de millions d'exemplaires lorsque Jésus reviendra. Ceux qui de leur vivant auront été des disciples de Jésus reviendront à la vie. Alléluia. Non pas avec le pauvre corps que nous avons maintenant, qui nous vaut si souvent tant de désagréments, pas les douleurs, les souffrances, les maladies que nous pouvons connaître. Mais la Bible nous parle de corps glorifiés. Pas, qui ne seront plus accessibles à la fatigue, au vieillissement, ni à la mort. Nous retrouverons l'immortalité qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden. Et puis, troisième phase de la vie éternelle, ce sera la vie dans le royaume céleste, hein, en compagnie de Dieu. Voilà, l'Écriture dit que ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous vivrons en compagnie du Seigneur. L'Écriture dit, la Bible dit que nous serons rendus semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et nous vivrons éternellement, sans fin, dans un bonheur parfait. Vous savez, dans les contes de fées, ça se termine toujours de la même manière. Hein? Ils se marièrent, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais après, vous avez pensé, après, ils eurent beaucoup d'enfants, oui, mais après, ces gens-là qui ont été heureux peut-être pendant toute leur vie terrestre, un jour, ça s'est arrêté. Et mes amis, le bonheur que le Seigneur nous promet, c'est un bonheur sans fin, qui se prolongera jusque dans l'éternité. Ce n'est pas du bluff, c'est une réalité. J'ai vu des chrétiens mourir, ou sur le point de mourir, dans une paix parfaite. On ne peut plus tricher devant la mort, vous savez. Tu te révèles tel que tu es. Hein? Et ces chrétiens partaient, et ils savaient où ils allaient, voyez. Et ils étaient dans une sérénité parfaite, parce qu'ils savaient que ce qui les attendait de l'autre côté, c'était bien meilleur que ce qu'ils avaient connu de ce côté-là. Par contre, il y en a, quand ils partent, ils ne sont pas sûrs de leur coup. Hein. Ils savent qu'ils sont perdus et qu'ils vont droit en enfer. Voltaire, j'en ai parlé souvent, a eu une agonie terrible. Cet homme qui s'est moqué de la Bible. Hein. On dit qu'il faisait partie des Lumières. Tu parles, lumière éteinte, ouais. Hein. Cet homme qui s'est moqué de la parole de Dieu et de Dieu lui-même, il est mort dans une agonie terrible. Vous voyez, il avait peur, à juste titre, parce que son âme l'avertissait qu'il allait au-devant du jugement, de la condamnation. Mais quand on a fait la paix avec Dieu auparavant, on est tranquille et on s'endort dans la paix de Dieu. Tout ça, c'est la vie éternelle, et l'Écriture dit, nous l'avons lu tout à l'heure, que c'est le don gratuit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour recevoir cette vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que déjà ici-bas, je bénéficie de la présence de Dieu dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que un jour, je ressuscite d'entre les morts, je sorte du tombeau avec un corps en pleine forme? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que un jour, j'aille vivre dans le ciel, dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, que je crois, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tout à l'heure, vous savez, on disait le salaire du péché, ce que tu mérites pour ton péché, ce que tu es digne de recevoir à cause de ton péché, c'est la mort. Mais là, la vie éternelle, ce n'est pas un dû, ce n'est pas toi qui l'as payé, ce n'est pas toi qui l'as mérité, c'est un don gratuit. C'est un cadeau. Si c'est gratuit, c'est parce que quelqu'un l'a payé à ta place. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Où ça qu'il a payé? Sur la croix du calvaire. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés de nos péchés par de l'or, ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Voilà le prix de la rançon. Le sang de Jésus qui a coulé pour tes péchés, pour les miens, sur la croix du calvaire. Je méritais, je le répète, et toi aussi, la condamnation, l'enfer, le jugement de Dieu, la mort, quoi. Mais Jésus qui était sans péché est venu. Et après avoir mené cette vie sainte, il a pris sur lui, ton péché et le mien, et là, sur la croix. Il a accepté de subir à notre place la condamnation que nous méritions. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Croire. Que Dieu m'offre son pardon. Dieu nous dit, tu vois, tu as mené une vie misérable, tu as traîné ta vie dans toutes sortes de comportements déplorables. Tu as désobéi à ma parole, à mes commandements. Tu as pratiqué le mal plus que le bien. Tu t'es fourvoyé, tu t'es trompé, tu as abusé des choses, tu as abîmé ton corps, tu t'es dégradé, tu t'es avili, tu t'es mal comporté, tu as été un misérable, mais je t'aime. Et parce que je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi sur la croix. Et si tu acceptes de croire que j'ai fait ça pour toi, je t'offre le pardon et la vie éternelle. Moi, un jour, quand j'ai compris ça, j'ai dit oui. J'ai dit oui. J'ai dit, ça m'intéresse. J'ai dit, j'en veux. Et il m'a donné, et pas qu'à moi, hein, la vie éternelle. Est-ce qu'il y aura quelqu'un ce soir qui dira, Seigneur, moi, ça m'intéresse. Alors, je veux mettre ma foi en Jésus. Vous voyez, je veux mettre ma foi dans le Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu, là-haut dans les cieux. Hein? La droite, dans le langage biblique, c'est la place d'honneur. Et auprès du Père, il fait pour nous fonction d'avocat. Il plaide notre cause. On peut le représenter comme ça, voyez. Chaque fois qu'un pécheur s'humilie sur la terre, chaque fois qu'un homme, une femme, demande à Dieu pardon de ses péchés, mais sa foi en Jésus, eh bien, Jésus là-haut dans le ciel se lève, c'est l'avocat, il se présente devant le Père, et il dit, Père, vois-tu cet homme, vois-tu cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille, qui te demande pardon, qui s'humilie, qui reconnaît ses fautes, ses erreurs, eh bien, souviens-toi, Père, que pour lui, j'ai payé le prix, j'ai donné ma vie. J'ai versé son sang, j'ai été puni, frappé, jugé, châtié à sa place. Je suis mort pour que lui vive. Et en réponse à la prière de Jésus, le Père efface tous nos péchés. Alléluia. Nous obtenons l'acquittement de la part du grand juge. Ça y est, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en route vers le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra recevoir ça dans son cœur? Vous voyez? C'est pas simplement, comment dire, signé au bas d'une page. C'est pas une adhésion intellectuelle. C'est pas dire ces chrétiens, ils sont gentils. Hein? Ce pasteur est sympathique, c'est dommage qu'il crie si fort. Hein? Mais quand même, on va faire comme ça, on va se joindre à ces gens-là. Non, mes amis, c'est une affaire personnelle. Ton mari, ton épouse, ton fils, ta fille, ton père, ta mère ne peuvent pas se décider à ta place. C'est une affaire entre toi et Dieu. Est-ce que tu veux la vie éternelle? Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Elle est à portée de main, la vie éternelle. Ce serait trop bête. Ce serait trop regrettable de négliger un si grand don. T'as rien à payer, t'as rien à mériter, t'as pas d'effort à faire, t'as simplement à croire, à dire « Jésus, viens, viens me sauver, viens me donner la vie éternelle, viens changer le cours de ma destinée. » Et il le fait sur le champ. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions quelques instants, voulez-vous? Oh Dieu, sois loué!